Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 12. C'était la Frochard qui rentrait. La journée avait été mauvaise, car la mendiante s'emportait en de nouvelles invectives contre les riches. Elle accablait de menaces le rémouleur qui, comme d'habitude, l'avait accompagnée au retour. Pierre, ne répondant mot, la mégère continuait sur le ton irrité qu'elle ne quittait plus depuis l'obstination de l'aveugle. « T'as donc un fameux poil dans la main, la Bourton, qui t'empêche de repasser les couteaux ?»« Sans compter, » s'écria-t-elle, « que tu nous as volé de l'argent, l'honnête homme, pour acheter des douceurs à cette princesse qui est là-haut. » Pierre eut un tressaillement. Il voulait éviter que Louise entendît. Et comme l'énergumène continuait à élever de plus en plus la voix, le pauvre garçon joignit les mains avec un regard suppliant. « Oh, pas si haut, la mère! Faut-il pas que je prenne des mitaines à cette heure pour parler de cette coquine? Mère, elle va entendre !» balbutia le rémouleur en implorant de nouveau. « Ah, graine de cafard !» hurla la mendiante. « Tu voudrais que je cache ma façon de penser? Tu vas voir pour l'or !» Et comme Pierre, redoutant une scène, s'était placé entre sa mère et l'escalier, la Frochard le saisit par le bras et l'envoya trébucher dans un coin. Puis, les deux poings sur les hanches, l'ignoble créature se mit à crier. « Si tu t'es fourré dans ta vilaine tête d'avorton, que tu me ferais donner mon pain à cette ostinée, mon pain que j'ai tant de mal à gagner, faudra te défaire de cette idée-là. » « Mais, insista le rémouleur, il y a deux jours qu'elle... « Eh ben quoi ?» interrompit la veuve du supplicié. « Demain, ça fera trois, je te l'ai dit, qu'elle cède ou qu'elle crève. » S'élançant alors sur l'escalier, elle arriva, hideuse de colère, les yeux injectés à la porte du grenier. Pierre l'avait suivie en tremblant. D'un coup de coude dans l'estomac, la mégère le fit rétrograder. Le malheureux rémouleur se cramponnait à la rampe pour ne pas culbuter. Il entendit un gémissement qui partait de la soupente. Et tout bas. « Elle râle » murmura-t-il douloureusement. Mais déjà la Frochard cognait à grands coups de poing contre la porte en criant. « Est-ce qu'on dort là-dedans, la duchesse? Si la digestion vous fatigue, faudra le dire. On vous mettra à la bonne diète. » Puis, croussissant sa voix de rogomme. « A-t-on réfléchi, l'ostiné? Et c'est-y pour aujourd'hui ou pour demain ?» Pierre attendait avec anxiété la réponse. Les doigts crispés sur sa poitrine, il s'enfonçait les ongles dans les chairs. Il se maudissait d'être lâche, de n'avoir pas l'audace de dire à cette forcenée. « Nous n'avons pas le droit de séquestrer ainsi cet enfant. Nous n'avons pas le droit de laisser mourir de faim une malheureuse qui s'est fiée à nous. Allons, arrière, la mère. Je ne serai pas votre complice dans le crime que vous commettez. Arrière. Je vais délivrer la jeune fille qui se meurt là de désespoir, de faim. Arrière, ou je brise cette porte. Et je vous sauve, malgré vous, de l'infamie dont vous vous couvrez. » Soudain, la voix de Louise se fit entendre. L'aveugle répondait à la question que venait de lui adresser la mendiante, et cette voix éteinte demandait grâce. « Pitié, pitié !» murmurait Louise au milieu des sanglots qui l'étouffaient. « Pitié !» Un cri sauvage s'échappa de la gorge de la Frochard, cri de triomphe et qui alla glacer d'effroi l'infortuné, qui, affaissée sur les genoux et les mains tendues, suppliante, répétait « Pitié, pitié, madame !» Pierre, n'y tenant plus, était revenu à côté de sa mère. « Mais ouvrez donc, ma mère !» lui dit-il, puisque... Il n'avait osé achever sa pensée. La Frochard l'enveloppait d'un regard haineux. « J'ouvrirai quand ça me dira, l'avorton » fit-elle sèchement. « C'est-y toi ou moi qui commande ici ?» répondant à l'exclamation de Louise. « Si c'est de la pitié contre rien du tout que vous réclamez, la petite, nous ne tenons pas de cette marchandise-là dans la famille des Frochards. »« Oh, madame, madame, ouvrez-moi » continuait à supplier l'aveugle. « Il n'y a rien qui presse, la duchesse. Faut que je sache d'abord à quelles conditions. »« Je souffre, je meurs !» sanglotait la patiente. « Je suis prête à accomplir le sacrifice !» Et elle ajoutait, se parlant à elle-même. « Mon Dieu, soutenez-moi dans cette cruelle épreuve. « Ça, c'est mon affaire de vous soutenir !» glapit la mendiante. Puis vivement. « Alors, vous acceptez ? Il y eut une seconde de silence pendant laquelle le cœur du rémouleur battit bien fort. Enfin, la réponse arriva. « Je vous obéirai, » dit Louise. « Pour m'obéir comme je l'entends ?» reprit la Frochard en élevant la voix au diapason de la menace. « Faudra que vous décidiez à tendre la main sans barguigner. Faudra demander à toutes les cafardes où sortir de la messe. Faudra les suivre sans s'arrêter au refus, aux bourrades. Faudra prendre l'air souffrant, malheureux, et pleurer. Pleurer ferme, c'est le fond du métier pour une bonne mendiante. » Et durement, après une pause. « Alors, c'est ben convenu. Nous allons mendier ensemble. » Louise exhala un sourd gémissement, et d'une voix éteinte. « Je vous obéirai, » balbutia-t-elle. La Frochard ouvrit la porte. Elle saisit le bras de l'aveugle, comme une hyène se précipite sur la proie longuement convoitée. Et entraînant Louise par le petit escalier, elle l'amena au rez-de-chaussée. Elle la fit s'asseoir sur un escabeau. Puis, toute rayonnante de son odieux triomphe, elle dit à sa victime, muette de honte. « Vous voilà donc soumise et obéissante. C'est pas malheureux, la belle ?» Louise, accablée, demeurait silencieuse. Elle était en ce moment en proie à l'un de ces spasmes dont elle avait déjà éprouvé cruellement l'effet pendant les mortelles journées d'abstinence qu'elle venait de subir. Pierre ne se contint plus. « Mère, » dit-il en montrant la patiente, « regardez-la donc, elle souffre !» Et s'approchant de la mégère, il ajouta dans un murmure. « Elle a faim, bien faim, et puisque... »«
Puisque quoi ?»«
Puisqu'elle consent à tout, même à... » Et le brave rémouleur formulait sa pensée par le geste d'une personne qui tend la main pour implorer la charité. Et cette main d'honnête homme tremblait. La Frochard eut un regard louche. Après avoir accepté, sans restriction et comme absolument sincère, la soumission de la victime, cette odieuse créature se prenait à avoir des soupçons. « Oui, elle consent, » dit-elle. « Mais si elle allait me jouer un tour ? On ne sait plus à qui se fier dans ce monde. Et si, une fois sortie avec moi, elle allait nous échapper ?»«
Puisqu'elle est aveugle, » répondit Pierre.
« C'est-y une raison pour qu'elle se mette pas à piailler tout le long des rues, afin de nous faire remarquer par les agents de la prévôté ?»
Ce bout de dialogue s'était échangé entre le fils et la mère, dans un coin du taudis et à voix basse, afin que l'aveugle n'en pût rien entendre. Au surplus, dans l'état d'anéantissement où elle se trouvait, la malheureuse ne prêtait guère attention à ce qui pouvait se passer autour d'elle. L'épreuve avait, pour cette nature si fragile, dépassé les limites au-delà desquelles il n'y a plus que la prostration, l'agonie lente, la mort. Aussi n'avait-elle pas bougé lorsque la Frochard avait pris brutalement à partie le rémouleur, parce que celui-ci s'apitoyait sur l'état de souffrance de la jeune fille.
« C'est bien arrêté, » dit la Frochard. « Je veux des garanties. »«
Des garanties, ma mère ?» hasarda timidement Pierre.
« Mais oui, je n'entends pas donner la pâtée à une piailleuse qui s'en irait raconter son histoire en public. »
La Frochard avait élevé le ton, et cette dernière phrase attira l'attention de l'aveugle. Elle comprenait qu'il s'agissait pour elle de dissiper les soupçons et le doute qui avait envahi l'esprit de la mendiante. Elle se sentait menacée de voir sa soumission demeurer stérile. Elle aurait souffert, elle se serait humiliée, et tout cela en pure perte. Malgré la répugnance, malgré l'horreur qu'elle éprouvait à l'idée qu'il lui faudrait accepter le bras de l'ignoble créature qui s'était démasquée à elle dans toute sa hideur morale, qu'il lui faudrait, sur un ordre de l'impitoyable femme, tendre au passant sa main frissonnante d'émotion et de honte, en dépit de l'écœurement qui l'obsédait, Louise eut le courage et la force de s'adresser à son bourreau pour lui dire d'une voix suppliante.
« Ne doutez pas de moi, madame, je n'ai jamais menti, et je vous le répète, j'ai promis de vous obéir. Je tiendrai ma promesse. »
« Une promesse ? Ce n'est pas assez, mademoiselle la duchesse !»
L'aveugle eut un mouvement d'étonnement et d'effroi. Elle se sentait retombée, plus avant que jamais, dans les serres du hideux oiseau de proie. Après avoir sacrifié sa dignité, fait saigner son cœur, s'être imposé la torture d'une honteuse soumission aux volontés de cette mégère, la malheureuse fille se trouvait dans l'obligation de pousser plus loin encore l'abandon d'elle-même. Mais que pouvait-on avoir à lui demander de plus ? N'avait-elle pas dit « Je vous suivrai dans vos courses à travers Paris, et en même temps que nous chercherons ma sœur, je tendrai la main ?»
je demanderai la charité pour vous. »
Ce que voulait maintenant la Frochard était aussi étrange qu'inattendu. La veuve du supplicié, qui avait devant l'échafaud où râlait son mari, vomi d'ignobles imprécations contre les hommes et contre Dieu, la cynique créature qui affichait son hypocrisie à la porte des églises qu'elle profanait de sa présence, la mendiante impie qui maudissait Dieu de ne l'avoir pas élevée au-dessus de la misérable condition qu'elle s'était volontairement faite, cette alcoolisée qui n'avait dans son cœur que malédiction et blasphème, la Frochard, enfin, voulait que Louise, cet ange d'innocence et de vertu, s'agenouilla devant elle l'immonde et prit à témoin de sa sincérité ce Dieu auquel elle ne croyait pas. Elle exigeait, cette mère de Jacques Frochard, que cette sainte fille, ignorante du mensonge, lui fît le serment solennel sur le salut de son âme qu'elle obéirait, qu'elle ne chercherait pas à s'arracher à la domination de son guide. Et Louise, se levant de dessus l'escabeau où on l'avait placée et fléchissant les genoux, balbutia le serment que l'on avait exigé d'elle. Alors, cette femme qui ne croyait à rien, ni à Dieu, ni au diable, cette créature ignoble, crut à ce serment de l'aveugle. « À présent, » dit-elle, en regardant le rémouleur qui était demeuré, le front incliné, comme frappé de respect devant cette jeune fille agenouillée, « à présent, on peut se risquer à lui donner à dîner. » Et elle ajouta, « une tranche de lard et un morceau de pain bis, ça fera l'affaire. » Sans attendre qu'on lui en eût accordé la permission, Pierre avait ouvert les deux battants du buffet et prenait dans le vieux meuble une assiette et un gobelet. Mais avec une intonation de désappointement. « Il n'y a plus rien, la mère, » dit-il. « Pour l'or, faudra donc dépenser de l'argent. » « Ah, quelle misère !» et regardant Louise. « Heureusement que tu me rapporteras ça au centuple, ma petite. Et dès demain !» se dit-elle. Au moment d'envoyer le rémouleur se procurer quelques aliments, la Frochard se ravisa. « J'y vais moi-même » fit-elle, et glissant, comme chaque soir, sa bouteille d'eau-de-vie sous son tablier en loques, elle sortit en prenant la précaution de fermer à double tour la porte de la rue.